De 1666 à 1670, la santé de Madame de Lafayette, qui n'était pas encore ce qu'elle devint bientôt après, et la faveur qu'elle possédait auprès de Madame, lui donnaient occasion et moyen d'aller assez souvent à la cour. Ce n'est guère qu'après la mort de Madame, et à l'époque aussi de cette diminution de santé de Madame de Lafayette, que la liaison, telle que Madame de Sévigné nous la montre, se régla complètement. Les lettres de l'incomparable amie, qui vont d'une manière ininterrompue précisément à partir de ce temps-là, permettent de suivre toutes les moindres circonstances et jusqu'à l'heureuse monotonie de cette habitude profonde et tendre. Leur mauvaise santé, écrit-elle, les rendait comme nécessaires l'un à l'autre, et leur donnait un loisir de goûter leurs bonnes qualités qui ne se rencontrent pas dans les autres liaisons. À la cour, on n'a pas le loisir de s'aimer. Ce tourbillon qui est si violent pour tous était paisible pour eux, et donnait un grand espace au plaisir d'un commerce si délicieux. Je crois que nulle passion ne peut surpasser la force d'une telle liaison. Je ne rapporterai pas tout ce qui se pourrait extraire de chaque lettre, pour ainsi dire, de Madame de Sévigné, car il y en a peu où Madame de Lafayette ne soit nommée, et plusieurs sont écrites ou fermées chez elle, avec les compliments tout vifs de M. de La Rochefoucauld, que voilà, au bon jour, au jour de santé passable, et de dîner, en lavardinage ou bavardinage. C'est un gracieux enjouement, ce sont des roulades de gaieté malicieuse sur cette folle de Madame de Marance, sur les manèges de Madame de Brissac et de M. le Duc. Il y a des jours plus sérieux, et non moins délicieux, où, à Saint-Maur, dans cette maison que M. le Prince avait prêtée à Gourville, et dont Madame de Lafayette jouissait volontiers, on entendait en compagnie choisie la poétique de Despréaux, qu'on trouvait un chef-d'œuvre. Puis, une autre fois, en dépit de Despréaux et de sa poétique, on allait à Lully, et, à de certains endroits de l'opéra de Cadmus, on pleurait. « Je ne suis pas seule à ne les pouvoir soutenir, » disait Madame de Sévigné. « L'âme de Madame de Lafayette en est tout alarmée. » Comme cette âme, alarmée, est bien la délicatesse même. « Oh, Zaïde, Zaïde, on sent à vos alarmes la tendresse romanesque, qui n'est satisfaite qu'à demi, et qu'il ne faut pas trop réveiller. » Il y a des jours aussi où Madame de Lafayette va encore faire une petite visite à la cour, et le roi la place dans sa calèche avec les dames, et lui montre les beautés de Versailles comme ferait un simple particulier. Et un tel voyage, un tel succès, si sage qu'on soit, fournit matière, au retour, à des conversations fort longues, et même à des lettres moins courtes qu'à l'ordinaire de la part de Madame de Lafayette, qui aime peu à écrire. Et Madame de Grignan, de loin, est un peu jalouse. Elle l'est encore à propos de quelque écritoire de bois de Sainte-Lucie dont Madame de Montespan fait présent à Madame de Lafayette. Note. Il ressort des lettres de Madame de Sévigné que Madame de Grignan devait assez souvent lui répéter « Voyez, voyez, votre Madame de Lafayette vous aime-t-elle donc si extraordinairement? Elle ne vous écrirait pas deux lignes en 10 ans. Elle sait faire ce qui l'accommode. Elle garde ses aises et son repos, et du milieu de cette indolence, surveille très bien de l'œil son crédit. » Gourville, avec qui Madame de Lafayette eut le tort d'en user trop longtemps sans réserve, comme on fait d'un ami sûr, a écrit d'elle quelque chose en ce sens, et plus malicieux. Lacet, dans les espèces de mémoires qu'il a fait imprimer, intente aussi toute une accusation contre Madame de Lafayette, en tant qu'intéressée et sachant prendre ses avantages. Mais pour se prononcer, il faudrait avoir pu entendre les deux sons. Reprise. Mais Madame de Sévigné raccommode tout cela par les compliments et les douceurs qu'elle arrange et qu'elle échange sans cesse entre sa fille et sa meilleure amie. Même quand Madame de Lafayette n'alla plus à Versailles et n'embrassa plus en pleurant de reconnaissance les genoux du roi, même quand M. de La Rochefoucauld fut mort, elle garda son crédit, sa considération. « Jamais femme sans sortir de sa place, nous dit Madame de Sévigné, n'a fait de si bonnes affaires. » Louis XIV aima toujours en elle la favorite de madame. Un témoin de cette mort touchante et de ces belles années avec lesquelles elle restait liée dans son souvenir, n'ayant plus guère reparu à la cour depuis. Mais Versailles et la poétique de Despréaux, et l'opéra de Lully, et les gaietés sur la Marance, sont toujours vite interrompues par cette misérable santé, qui, avec sa fièvre tierce, ne permet pas qu'on l'oublie, et devient peu à peu l'occupation principale. Dans son beau et vaste jardin de la rue de Vaugirard, si verdoyant, si embaumé, dans la maison de Gourville à Saint-Maur, où elle s'habitue en amie franche, à Fleury-sous-Meudon, où elle va respirer l'air des bois, on la suit malade, mélancolique. On voit cette figure longue et sérieuse s'amaigrir et se dévorer. Sa vie, durant 20 ans, se convertit en une petite fièvre plus ou moins lente, et les bulletins reviennent toujours à ceci. Guillemets, Madame de Lafayette s'en va demain à une petite maison auprès de Meudon, où elle a déjà été. Elle y passera 15 jours pour être comme suspendue entre le ciel et la terre. Elle ne veut pas penser, ni parler, ni répondre, ni écouter. Elle est fatiguée de dire bonjour et bonsoir. Elle a tous les jours la fièvre, et le repos la guérit. Il lui faut donc du repos. Je l'irai voir quelquefois. Monsieur de La Rochefoucauld est dans cette chaise que vous connaissez. Il est d'une tristesse incroyable, et l'on comprend bien aisément ce qu'il a. Fin des guillemets. Ce qu'a sans doute Monsieur de La Rochefoucauld de pire que la goutte et que ses maux ordinaires, c'est de manquer de Madame de Lafayette. La tristesse qu'un tel état nourrissait naturellement n'empêchait pas l'agrément et le sourire de reparaître aux moindres intervalles. Dans les sobriquets de société qu'on se donnait et qui faisaient de Madame Scarron le dégel, de Colbert le nord, de Monsieur de Pomponne la pluie, Madame de Lafayette avait nom le brouillard. Le brouillard se levait quelquefois et l'on avait des horizons charmants, une raison douce, résignée, mélancolique, attachante et détachée, reposée de ton, semée de mots justes et frappants qu'on retenait, composait l'allure habituelle de sa conversation, de sa pensée. « C'est assez que d'être, » disait-elle d'ordinaire, en acceptant son état inactif. Ce mot qui la peint tout entière est bien de celle qui disait aussi, à propos de Montaigne, qu'il y aurait plaisir à avoir un voisin comme lui. Elle n'aurait pas dit la même chose de Malebranche, et en digne amie de Huet, elle avouait à Ménage, sur la recherche de la vérité, qu'elle n'avait pu y rien comprendre. Cela, en effet, lui devait paraître à la fois trop dogmatique et trop alambiqué. Une sensibilité extrême et pleine de larmes reparaissait par instant, tout à coup, à travers cette raison continue, comme une source qui jaillit d'une terre unie. On l'a vue tout alarmée par l'émotion de la musique. Quand Madame de Sévigné partait pour les Rochers ou pour la Provence, il ne fallait pas qu'elle lui fît ses adieux, et que sa visite eût l'air d'être la dernière. La délicatesse de Madame de Lafayette ne pouvait supporter le départ d'une telle amie. Un jour, on parlait devant elle, Monsieur le Duc présent, de la campagne qui devait s'ouvrir dans 5 ou 6 mois. L'idée soudaine des dangers que Monsieur le Duc aurait à courir alors lui tira aussitôt des larmes. Ses effusions avaient un charme plus grand et plus de prix, on le conçoit, dans une personne si judicieuse et avec un esprit s'y reposer. Son attention, du sein de sa langueur, ne se portait pas moins sur les points essentiels. Sans bouger, elle veillait à tout. Si elle réforma le cœur de Monsieur de La Rochefoucauld, elle répara aussi ses affaires. Elle s'entendait bien au procès, et l'empêcha de perdre le plus beau de ses biens en lui fournissant les moyens de prouver qu'ils étaient substitués. On conçoit avec cela qu'elle écrivait peu de lettres, et seulement pour le nécessaire. C'était son seul coin orageux avec Madame de Sévigné. Le petit nombre de lettres de Madame de Lafayette sont presque toutes pour dire qu'elle ne dira que 2 mots, qu'elle dirait plus si elle n'avait la migraine. on voit même reparaître un jour M. de Lafayette en personne, qui arrive tout exprès je ne sais d'où, comme motif d'excuse. Il suffit de lire la jolie lettre. « eh bien, ma belle, qu'avez-vous à crier comme un aigle ?» etc. pour bien connaître le train de vie de Mme de Lafayette et saisir sa différence de ton d'avec Mme de Sévigné. On y lit ces mots souvent cités. Guillemets. Vous êtes en Provence, ma belle. Vos heures sont libres, et votre tête encore plus. Le goût d'écrire vous dure encore pour tout le monde. Il m'est passé pour tout le monde. Et si j'avais un amant qui voulût de mes lettres tous les matins, je romprais avec lui. Fin des guillemets. Madame de Lafayette était très vraie et très franche. Il fallait la croire sur parole, Madame de Sévigné. Guillemets. Elle n'aurait pas donné le moindre titre à qui que ce fût si elle n'eût été persuadée qu'il le méritait. C'est ce qui a fait dire à quelqu'un qu'elle était sèche, quoiqu'elle fût délicate. Fin des guillemets. C'est Grésiana. Madame de Maintenon, avec qui Madame de Lafayette avait eu liaison étroite, était d'un esprit aussi merveilleusement droit, mais d'un caractère moins franc, aussi judicieuse, mais moins vraie. Et cette différence dut contribuer à leur refroidissement. En 1672, quand Madame Scarron élevait en secret les bâtards de Louis XIV, au bout du faubourg Saint-Germain, près de Vaugirard, bien au-delà de la maison de Madame de Lafayette, celle-ci était encore en liaison particulière avec elle. Elle recevait quelquefois de ses nouvelles, ainsi que Madame de Coulanges. Elles durent même la visiter ensemble. Mais la confidence de Madame Scarron se resserrant par degrés, il en résulta, de ses paroles rapportées et de ses conjectures qui déplaisent entre amis, guillemets, « l'idée d'entrer en religion ne m'est jamais venue dans l'esprit », écrivait Madame de Maintenon à l'abbé Testu. « Rassurez donc, Madame de Lafayette. » Fin des guillemets. Donnant à son frère des leçons d'économie, Madame de Maintenon écrivait en 1678 « J'aurai 50 000 livres de rente que je n'aurai pas le train de grande dame, ni un lit galonné d'or comme Madame de Lafayette, ni un valet de chambre comme Madame de Coulanges. Le plaisir qu'elles en ont vaut-il les railleries qu'elles en essuient ?» Fin des guillemets. Je ne sais si le lit galonné de Madame de Lafayette prêtait beaucoup aux plaisanteries, mais couché là-dessus, comme il lui arrivait trop souvent, elle y était plus simple à coup sûr que son amie sous ce manteau couleur de feuilles mortes qu'elle affecte d'user jusqu'au bout. Enfin, toute amitié cessa entre elles. Madame de Maintenon le déclare. Guillemets. Je n'ai pu conserver l'amitié de Madame de Lafayette. Elle en mettait la continuation à trop haut prix. Je lui ai montré du moins que j'étais aussi sincère qu'elle. C'est le duc qui nous a brouillés. Nous l'avons été autrefois pour des bagatelles. Note. Lettre à Madame de Saint-Géran, août 1684. De quel duc s'agit-il? Est-ce du nouveau duc de La Rochefoucauld? On voit par une lettre de Madame de Maintenon à la même, d'avril 1679, qu'elle ne pouvait souffrir les Marcillac, père et fils. Toutes ces lettres adressées à Madame de Saint-Géran sont devenues très suspectes depuis les derniers travaux critiques sur l'édition de La Baumelle. Reprise. Et, dans les mémoires de Madame de Lafayette sur les années 1688 et 1689, à propos de la Comédie d'Esther, on lit Guillemets, elle, Madame de Maintenon, ordonna au poète de faire une comédie, mais de choisir un sujet pieux, car, à l'heure qu'il est, hors de la piété, point de salut à la cour, aussi bien que dans l'autre monde. La comédie représentait en quelque sorte la chute de Madame de Montespan et l'élévation de Madame de Maintenon. Toute la différence fut qu'Esther était un peu plus jeune et moins précieuse, en fait de piété. Fin des guillemets. En citant ces paroles de deux femmes illustres, je ne me plais pas à en faire ressortir l'aigreur qui gâta une longue affection. En somme, Madame de Maintenon et Madame de Lafayette étaient deux puissances trop considérables et qui faisaient trop peu de frais pour ne pas se refroidir à l'égard l'une de l'autre. Madame de Maintenon, en grandissant la dernière, dut, par degrés, changer envers Madame de Lafayette, qui resta la même. C'est ce procédé uniforme que Madame de Maintenon aurait peut-être voulu voir changer un peu avec sa fortune. Note. La Baumelle, dans les mémoires qui précèdent son édition des lettres de Madame de Maintenon, suppose à Madame de Lafayette je ne sais quel tort de caractère et quelle prétention de vouloir remplacer Madame de Sablé, qui éloignèrent d'elle ses amis et rendirent sa maison déserte. On ne peut trancher avec plus d'impertinence à l'encontre de tous les témoignages. Reprise. Madame de Lafayette, mourante, était celle encore dont Madame Scarron, écrivant à Madame de Chanteloup sur sa présentation à Madame de Montespan, avait dit en 1666 « Madame de Thianges me présenta à sa sœur. Je peignis ma misère, sans me ravaler. » Enfin, Madame de Lafayette aurait été contente du vrai de mes expressions et de la brièveté de mon récit. Fin des guillemets. En fait de société aimable et polie, unissant le sérieux et le vrai à la grâce, si j'avais été de M. Roderer, j'en aurais vu et placé le triomphe le plus satisfaisant dans le cercle de Mesdames de Sévigné et de Lafayette, plutôt que dans l'élévation et le mariage de Madame de Maintenon. Celle-ci nuisit, en un sens, à la société polie, comme certains révolutionnaires ont nui à la liberté, en la poussant trop loin et jusqu'aux excès qui appellent la réaction contraire. Il fallait s'arrêter avant la pruderie ou la rigidité, sous peine de provoquer la régence. En juillet 1677, un an avant la princesse de Clèves, on voit que la santé de Madame de Lafayette semblait au pire, bien qu'elle dût encore aller 15 ans à dépérir ainsi sans relâche, étant de celles qui traînent leur misérable vie jusqu'à la dernière goutte d'huile, Madame de Sévigné. C'est pourtant dans l'hiver qui suivit que M. de La Rochefoucauld et elle s'occupèrent finalement de ce joli roman, qui parut chez Barbin le 16 mars 1678. Note. Dans une lettre de Madame de Sévigné à sa fille, 16 mars 1672, on lit « Je suis au désespoir que vous ayez eu Bajazet par d'autres que moi. C'est ce chien de Barbin qui me hait, parce que je ne fais pas des princesses de Clèves et de Montpensier. » Il en faut conclure que le roman de la princesse de Clèves était déjà au moins en projet et en ébauche à cette première date, qu'il en avait été question dans la société intime de l'auteur, que Mesdames de Sévigné et de Grignan en avaient peut-être entendu le commencement. Dans une lettre, je crois, de Madame de Scudéry à Bussy, on voit d'ailleurs que, pendant l'hiver qui précède la publication, M. de La Rochefoucauld et Madame de Lafayette s'enferment et préparent quelque chose. La conciliation est simple. La princesse de Clèves, ébauchée, sommeilla de 1672 à 1677. Et alors seulement, l'auteur s'y remit de concert avec M. de La Rochefoucauld pour l'achever. Reprise. Ce grès, que nous trouvons encore sur notre chemin, dit en un endroit qu'il n'a pas pris la peine de répondre à la critique que l'on fit de ce roman. Note. Il est à remarquer qu'à l'endroit où on lui fait dire cela, dans le « Segresiana », on lui prête une erreur au sujet du roman qui aurait été le sien. Il parle en effet de la rencontre de M. de Nemours et de Mme de Clèves chez le joaillier, tandis que c'est M. de Clèves qui y rencontre celle qui doit être sa femme. On ne peut donc prendre ce propos mal recueilli pour une autorité. Reprise. Et à un autre endroit que Madame de Lafayette a dédaigné d'y répondre, de sorte qu'il y aurait doute, si on le voulait, sur son degré de coopération. Mais pour le coup, nous ne le discuterons pas, et ce roman est trop supérieur à tout ce qu'il a jamais écrit pour permettre d'hésiter. Personne, au reste, ne s'y méprit cette fois. Les lectures confidentielles avaient fait bruit, et le livre fut bien reçu comme l'œuvre de la seule Madame de Lafayette, aidée du goût de M. de La Rochefoucauld. Dès que cette princesse, ainsi annoncée à l'avance, parut, elle fut l'objet de toutes les conversations et correspondances. Bussy et Madame de Sévigné s'en écrivaient. On était partout sur le qui-vive à son propos. On s'abordait dans la grande allée des Tuileries en se demandant des nouvelles. Fontenelle lut le roman 4 fois dans la Nouveauté. Bourceau en tira une tragédie, comme à présent on en eût fait des vaudevilles. Valincourt écrivit, très incognito, un petit volume de critique qu'on attribua au père Bourg. Et un abbé de Charnes riposta par un autre petit volume qu'on supposa de Barbier d'Aucourt, critique célèbre d'alors et adversaire ordinaire du spirituel jésuite. La princesse de Clèves a survécu à cette vogue qu'elle méritait et est demeurée parmi nous le premier en date des plus aimables romans. Il est touchant de penser dans quelle situation particulière naquirent ces êtres si charmants, si purs, ces personnages nobles et sans tache, ces sentiments si frais, si accomplis, si tendres. Comme Madame de Lafayette mit là tout ce que son âme aimante et poétique tenait en réserve de premiers rêves toujours chéris, et comme Monsieur de La Rochefoucauld se plut sans doute à retrouver dans Monsieur de Nemours cette fleur brillante de chevalerie dont il avait trop mésusé, et en quelque sorte, un miroir embelli où recommençait sa jeunesse. Note. Monsieur de La Rochefoucauld, a dit l'abbé de Longuerue, a été toute sa vie fidèle au roman. Tous les après-midi, il s'assemblait avec Segret chez Madame de Lafayette, et on y faisait une lecture de l'Astrée. Il lui était resté, à travers tout, un coin de goût romanesque. Reprise. Ainsi, ces deux amis vieillis remontaient par l'imagination à cette première beauté de l'âge où ils ne s'étaient pas connus et où ils n'avaient pu s'aimer. Cette rougeur familière à Madame de Clèves, et qui d'abord est presque son seul langage, marque bien la pensée de l'auteur, qui est de peindre l'amour dans tout ce qu'il a de plus frais et de plus pudique, de plus adorable et de plus troublant, de plus indécis et de plus irrésistible, de plus lui-même, en un mot. Il est question à tout moment de cette joie que donne la première jeunesse jointe à la beauté, de cette sorte de trouble et d'embarras dans toutes les actions que cause l'amour dans l'innocence de la première jeunesse, enfin de tout ce qui est le plus loin d'elle et de son ami en leur liaison tardive. Dans la teneur de la vie, elle était surtout sensée. Elle avait le jugement au-dessus de son esprit, lui disait-on, et cette louange la flattait plus que le reste. Ici, la poésie, la sensibilité intérieure reprennent le dessus, quoique la raison ne manque jamais. Nulle part, comme dans La Princesse de Clèves, les contradictions et les duplicités délicates de l'amour n'ont été si naturellement exprimées. Guillemets. Madame de Clèves avait d'abord été fâchée que M. de Nemours eût lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de Saint-André. Mais, ensuite, elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eût entièrement ôté l'opinion. Madame de Clèves s'était bien doutée que ce prince s'était aperçu de la sensibilité qu'elle avait eue pour lui, et ses paroles lui firent voir qu'elle ne s'était pas trompée. Ce lui était une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Elle en avait aussi beaucoup que M. de Nemours les connût, mais cette dernière douleur n'était pas si entière et elle était mêlée de quelque sorte de douceur. Fin des guillemets. Les scènes y sont justes, bien coupées, parlantes, en un ou deux cas seulement invraisemblables, mais sauvés encore par l'à-propos de l'intérêt et un certain air de négligence. Les épisodes n'éloignent jamais trop du progrès de l'action et y aident quelquefois. La plus invraisemblable circonstance, celle du pavillon. Quand M. de Nemours arrive singulièrement à temps pour entendre derrière une palissade l'aveu fait à M. de Clèves. Cette scène que Bussy et Valincourt relèvent faisait pourtant fondre en larmes, au dire de ce dernier, ce même qui n'avait pleuré qu'une fois à Iphigénie. Pour nous, que ces invraisemblances choquent peu, et qui aimons de la princesse de Clèves jusqu'à sa couleur un peu passée, ce qui nous charme encore, c'est la modération des peintures qui touche si à point. C'est cette manière partout si discrète et qui donne à rêver. Quelques saules le long d'un ruisseau quand l'amant s'y promène. Pour toute description de la beauté de l'amante, ses cheveux confusément rattachés. Plus loin, des yeux un peu grossis par des larmes. Et pour dernier trait, cette vie qui fut assez courte, impression finale elle-même ménagée. La langue en est également délicieuse, exquise de choix. Note. Un critique que nous aimons à citer a dit « Il est très remarquable de voir combien, sous Louis XIV, la langue française, dans toute sa pureté, est telle que l'écrivaient Mesdames de Lafayette, de Sévigné, Monsieur de La Rochefoucauld, se composait d'un petit nombre de mots qui revenaient sans cesse avec une sorte de charme dans le discours, et quelle était la généralité des expressions qu'on employait. On peut dire, particulièrement du style de Madame de Lafayette, qu'il est la pureté et la transparence même. C'est le liquida vox d'Horace. Reprise. La langue en est également délicieuse, exquise de choix, avec des négligences et des irrégularités qui ont leur grâce, et que Valincourt n'a notées en détail qu'en les supposant dénoncées par un grammairien de sa connaissance, et avec une sorte de honte d'en faire un reproche trop direct à l'aimable auteur. Je n'y distingue que deux locutions qui ont vieilli. Guillemets. Le roi ne survécut guère le prince son fils, et My Lord Courtenay était aussi aimé de la reine Marie qu'il aurait épousé du consentement de toute l'Angleterre sans qu'elle connût que la jeunesse et la beauté de sa sœur Élisabeth le touchaient davantage que l'espérance de régner. Fin des guillemets. Pour « si ce n'est qu'elle connue », etc. Cette dernière locution revient plusieurs fois. Le petit volume de Valincourt, qu'Adry a réimprimé dans son édition de La Princesse de Clèves, est un échantillon distingué de la critique polie, telle que les amateurs de goût cela permettait sous Louis XIV. Valincourt n'avait alors que 25 ans. Il aimait peu le monde de huet, de segret. Il arrivait plus tard et représente au net les jugements de Racine et de Boileau. Sa malice, qui se tempère toujours, n'empêche pas en lui l'équité et qu'il ne fasse la part à la louange. Il n'a pas évité pourtant la minutie et la chicane du détail. Ceux qui attribuaient la critique au père Bourg avaient droit de trouver plaisant que le censeur reprochât à la première rencontre de M. de Clèves et de Mlle de Chartres d'avoir lieu dans une boutique de joaillier plutôt que dans une église. Quoi qu'il en soit, l'ensemble atteste un esprit exact et fin, décemment ironique, et tel que Fontane l'aurait pu consulter avec plaisir et profit avant de critiquer Mme de Staël. L'abbé de Charnes, qui reprend cette critique mot à mot pour la réfuter avec injure, m'a tout l'air d'un provincial qui n'avait pas demandé à Madame de Lafayette la permission de la défendre. Barbier d'Aucourt, sans avoir rien de bien attique, s'en fut tiré autrement. On peut voir dans Valincourt une théorie complète du roman historique très bien exposée par un savant qui l'introduit, et cette théorie n'est autre que celle que Walter Scott a en partie réalisé. Bussy, qui, dans ses lettres à Madame de Sévigné, parle assez longuement de la princesse de Clèves, ajoute avec cette incroyable fatuité qui gâtait tout, guillemets, « Notre critique est de gens de qualité qui ont de l'esprit, celle qui est imprimée est plus exacte et plaisante en beaucoup d'endroits. » Fin des guillemets. Pour venger Madame de Lafayette de quelque malignité de cet avantageux personnage, il suffit de citer de lui ce trait-là. Note. On peut voir au tome 2, page 304, des œuvres diverses de Bayle, une critique très agréable de la princesse de Clèves qui s'est allé loger dans les nouvelles lettres critiques sur l'histoire du calvinisme. Cette critique de Bayle est l'antipode de l'idéal, et tout au point de vue de ce qu'on a appelé la bonne grossièreté naturelle. Reprise. En avançant dans la composition de la princesse de Clèves, les pensées de Madame de Lafayette, après ce premier essor vers la jeunesse et ses joies, redeviennent graves. L'idée du devoir augmente et l'emporte. L'austérité de la fin sent bien cette vue si longue et si prochaine de la mort, qui fait paraître les choses de cette vie de cet œil si différent dont on les voit en santé. Note. Valincourt remarque avec raison qu'il faudrait « de celui dont ». Reprise. Dès l'été de 1677, elle avait elle-même éprouvé cela, et comme l'indique Madame de Sévigné, tournait son âme à finir. Le désabusement de toute chose se montre dans cette crainte qu'elle prête à Madame de Clèves, que le mariage ne soit le tombeau de l'amour du prince et n'ouvre la porte aux jalousies. Cette crainte, en effet, autant que le scrupule du devoir, s'oppose dans l'esprit de Madame de Clèves au mariage avec l'amant. En achevant leur roman idéal, il est clair que les deux amis, que Monsieur de La Rochefoucauld et elle, en venaient à douter de ce qu'il y aurait eu de félicité imaginable pour leur cher personnage, et qu'ils se reprenaient encore à leur douce liaison réelle comme au bien le plus consolant et le plus sûr. Ils n'en jouirent plus longtemps. Dans la nuit du 16 au 17 mars 1680, 2 ans jour pour jour après la publication de La Princesse de Clèves, M. de La Rochefoucauld mourut. Guillemet. J'ai la tête si pleine de ce malheur et de l'extrême affliction de notre pauvre ami, écrit Madame de Sévigné, qu'il faut que je vous en parle. M. de Marcillac est dans une affliction qui ne peut se représenter. Cependant, ma fille, il retrouvera le roi et la cour. Toute sa famille se retrouvera à sa place. Mais où Madame de Lafayette retrouvera-t-elle un tel ami, une telle société, une pareille douceur, un agrément, une confiance, une considération pour elle et pour son fils? Elle est infirme, elle est toujours dans sa chambre, elle ne court point les rues. Monsieur de La Rochefoucauld était sédentaire aussi. Cet état les rendait nécessaires l'un à l'autre, et rien ne pouvait être comparé à la confiance et au charme de leur amitié. Songez-y, ma fille, vous trouverez qu'il est impossible de faire une perte plus considérable et dont le temps puisse moins consoler. Je n'ai pas quitté cette pauvre amie tous ces jours-ci. Elle n'allait point faire la presse parmi cette famille, en sorte qu'elle avait besoin qu'on eût pitié d'elle. Madame de Coulanges a très bien fait aussi, et nous continuerons quelque temps encore. » Fin des guillemets. Et dans chacune des lettres suivantes, la pauvre Madame de Lafayette ne sait plus que faire d'elle-même. Tout se consolera, hormis elle. C'est ce que Madame de Sévigné répète en 100 façons plus expressives les unes que les autres. Cette pauvre femme ne peut serrer la file d'une manière à remplir cette place. Madame de Lafayette ne chercha pas à la remplir. Elle savait que rien ne répare de telles ruines. Même cette amitié si tendre avec Madame de Sévigné ne suffisait pas. Elle le sentait bien. Il y avait trop de partage. Pour se convaincre de l'insuffisance de telles amitiés, même des meilleures et des plus chères, qu'on lise la lettre de Madame de Lafayette à Madame de Sévigné du 8 octobre 1689. Si parfaite, si impérieuse et si sans façon à force de tendresse. Et qu'on lise ensuite le commentaire qu'en fait Madame de Sévigné écrivant à sa fille. Guillemets. Mon Dieu, la belle proposition de n'être plus chez moi, d'être dépendante, de n'avoir point d'équipage et de devoir 1000 écus. Fin des guillemets. Et l'on comprendra combien il ne faut pas tout redemander à ces amitiés, qui ne sont point uniques et sans partage, puisque les plus délicates jugent ainsi. Après l'amour, après l'amitié absolue, sans arrière-pensée ni retour ailleurs, tout entière occupée et pénétrée, est la même que nous, il n'y a que la mort ou Dieu. Madame de Lafayette vécut 13 années encore. On peut s'enquérir, chez Madame de Sévigné, des légers détails de sa vie extérieure durant ces années désertes. Une vive entrée en liaison avec la jeune Madame de Schomberg donna quelque éveil curieux et jaloux aux autres amies plus anciennes. On ne voit pas que cet effort d'une âme qui semblait se reprendre à quelque chose ait duré. C'est peut-être par l'effet du même besoin inquiet que, dès les premiers mois de sa perte, elle fit augmenter encore, du côté du jardin, son appartement déjà si vaste, à mesure, hélas, que son existence diminuait. Il paraît aussi que, pour remplir les heures, Madame de Lafayette se laissa aller à plusieurs écrits, dont quelques-uns ont pu être égarés. La comtesse de Tende doit dater de ces années-là. Le plus fort de la critique de Bussy et du monde en général au sujet de la princesse de Clèves avait porté sur l'aveu extraordinaire que l'héroïne fait à son mari. Madame de Lafayette, en inventant une nouvelle situation analogue qui amena un aveu plus extraordinaire encore, pensa que la première en serait d'autant justifiée. Elle réussit dans la comtesse de Tende, bien qu'avec moins de développement qu'il n'eût fallu pour que la princesse de Clèves eût une sœur comparable à elle. On sent que l'auteur a son but et qu'il y court. Les mémoires de la cour de France, pour les années 1688 et 1689, se font remarquer par la suite la précision et le dégagé du récit. Aucune divagation, presque aucune réflexion. Un arrêt vif, empressé, attentif, une intelligence continuelle. L'auteur d'un tel écrit était certes un esprit capable d'affaires positives. J'ai cité le mot assez piquant sur Madame de Maintenon à propos d'Esther. Racine, par contre-coup, y est un peu légèrement traité avec sa comédie de couvent. Guillemets. Madame de Maintenon, pour divertir ses petites filles et le roi, fit faire une comédie par Racine, le meilleur poète du temps, que l'on a tiré de sa poésie, où il est inimitable, pour en faire, à son malheur et celui de ceux qui ont le goût du théâtre, un historien très imitable. Fin des guillemets. Madame de Lafayette avait été d'un monde qui préféra longtemps Corneille à Racine. Elle avait aimé et pratiqué dans Zaïde ce genre espagnol, si cher à l'auteur du Cid, et que Racine et Boileau avaient tué. Elle voyait Fontenelle, elle comptait pour amis particuliers des hommes comme Segret, Huet, qui avaient des antipathies et même des haines contre ces deux poètes régnants. Note. Voir Huet sur Boileau dans ses Mémoires latins. Reprise. Monsieur de La Rochefoucauld, qui les goûtait l'un et l'autre comme écrivains, ne leur trouvait qu'une seule sorte d'esprit et les jugeait pauvres d'entretien hors de leur vers. Valincourt, enfin, qui avait attaqué la princesse de Clèves, était l'élève, l'ami intime de tous deux. Après cela, Madame de Lafayette avait trop d'esprit et d'équité pour ne pas admirer dignement des auteurs dont la tendresse ou la justesse trouvaient en elle des cordes si préparées. Au moment où elle révère le moins Racine, elle l'appelle encore le meilleur poète et inimitable. On a vu qu'elle écoutait, chez Gourville, c'est-à-dire chez elle, la poétique de Boileau. Note. Il y a mieux. Madame, on le sait, avait été à la cour la première protectrice des nouveaux poètes. Racine lui avait dédié Andromaque. Or, Madame de Lafayette était le conseil de Madame en toutes ces choses de l'esprit. Son influence littéraire, à ce moment décisif, dut être très directe et des plus puissantes. Seulement, elle jugeait ceux qu'elle avait protégés. Reprise. Elle avait, nous l'avons dit, avec Boileau plus d'un rapport de droiture d'esprit et de critique irréfragable, et était à sa manière un oracle de bon sens dans son beau monde. Les mots à la Despréo qu'on a retenus d'elle sont nombreux. Nous en avons cité beaucoup, auxquels il faut en ajouter encore. Par exemple, celui qui se met au-dessus des autres, quelque esprit qu'il ait, se met au-dessous de son esprit. Boileau, causant un jour avec d'Olivet, disait « Savez-vous pourquoi les anciens ont si peu d'admirateurs ? C'est parce que les trois quarts, tout au moins de ceux qui les ont traduits, étaient des ignorants ou des sots. Madame de Lafayette, la femme de France qui avait le plus d'esprit et qui écrivait le mieux, comparait un sot traducteur à un laquais que sa maîtresse envoie faire un compliment à quelqu'un. Ce que sa maîtresse lui aura dit en termes polis, il va le rendre grossièrement, il l'estropie. Plus il y avait de délicatesse dans le compliment, moins ce laquais s'en tire bien. Et voilà en un mot la plus parfaite image d'un mauvais traducteur. Boileau paraît donc certifier en quelque sorte lui-même cette ressemblance, cet accord d'elle à lui que nous indiquons. M. Roederer a mille fois raison au sujet des relations de Molière avec le monde de Mesdames de Sévigné, de Lafayette, et en montrant que la pièce des femmes savantes ne les regardait en rien. Quant à La Fontaine, il est constant qu'à une époque, il fut fort en familiarité avec Madame de Lafayette. On a des vers affectueux qu'il lui adressait en lui envoyant un petit billard. Ce devait être du temps où il dédiait une fable à l'auteur des Maximes et une autre à Mademoiselle de Sévigné. Note. Madame de Lafayette était donc bien réellement du même groupe et comme du même Parnasse que La Fontaine, Racine et Despréaux. Et le petit récit suivant n'est que l'image un peu enfantine du vrai. Guillemets. En 1675, dit Ménage, Madame de Thianges donna en étrenne une chambre toute dorée, grande comme une table, à Monsieur le Duc du Maine. Au-dessus de la porte, il y avait en grosses lettres « Chambre du Sublime ». Au-dedans, un lit et un balustre, avec un grand fauteuil, dans lequel était assis Monsieur le Duc du Maine, fait en cire, fort ressemblant. Auprès de lui, Monsieur de La Rochefoucauld, auquel il donnait des verres pour les examiner. Autour du fauteuil, Monsieur de Marcillac et Monsieur Bossuet, alors évêque de Condom. À l'autre bout de l'alcôve, Madame de Thianges et Madame de Lafayette lisaient des vers ensemble. Au dehors du balustre, Despréaux, avec une fourche, empêchait 7 ou 8 méchants poètes d'entrer. Racine était auprès de Despréaux, et un peu plus loin, La Fontaine, auquel il faisait signe d'avancer. Toutes ces figures étaient de cire, en petit, et chacun de ceux qu'elles représentaient avait donné la sienne. Fin des guillemets. Ménage ne nous dit point s'il a posé pour l'un des 5 ou 6 mauvais poètes chassés par Boileau. Reprise. Depuis la mort de Monsieur de La Rochefoucauld, les idées de Madame de Lafayette se tournèrent de plus en plus à la religion. On en a un témoignage précieux dans une belle et longue lettre de Duguay, qui est à elle. Elle l'avait choisi pour directeur. Sans être liée directement avec Port-Royal, elle inclinait de ce côté, et l'hypocrisie de la cour l'y poussait encore plus. Sa mère, on l'a vu, lui avait donné pour beau-père le chevalier Renaud de Sévigné, oncle de Madame de Sévigné, et l'un des bienfaiteurs de Port-Royal des Champs, dont il avait fait rebâtir le cloître. Il n'était mort qu'en 1676. Note. Vers la fin, les relations de Madame de Lafayette avec Port-Royal furent plus directes que je ne l'avais cru d'abord. Je lis dans une lettre de Racine à Monsieur de Bonrepos, 28 juillet 1693, cette partie qui n'est pas dans l'imprimé et que je transcris d'après l'original, collection de Monsieur Feuillet de Conches. Il s'agit d'un souper chez la comtesse de Gramont, où se trouvaient Madame de Quélus, Cavoy, Valincourt, Despréaux et Racine lui-même. Guillemets. Votre amie Madame de Lafayette, écrit ce dernier, nous a été d'un bien triste entretien. Je n'avais malheureusement point eu l'honneur de la voir dans les dernières années de sa vie. Dieu avait jeté une amertume salutaire sur ses occupations mondaines. Et elle est morte après avoir souffert dans la solitude avec une piété admirable les rigueurs de ses infirmités, y ayant été fort aidée par l'abbé Duguay et par quelques-uns de messieurs de Port-Royal qu'elle avait en grande vénération, ce qui a fait dire 1000 bien d'eux par Madame la Comtesse de Gramont, qui estime fort Port-Royal et ne s'en cache pas. Fin des guillemets. Reprise. Madame de Lafayette connut Duguay, qui commençait à prendre un grand rôle spirituel pour la direction des consciences, et qui, dans cette décadence de Port-Royal, n'en avait que les traditions justes et intimes, sans rien de contentieux ni d'étroit. Voici quelques-unes des paroles sévères qu'adressait ce prêtre, selon l'esprit, à la pénitente qui les lui avait demandées. « J'ai cru, madame, que vous deviez employer utilement les premiers moments de la journée où vous ne cessez de dormir que pour commencer à rêver. Je sais que ce ne sont point alors des pensées suivies, et que souvent vous n'êtes appliqué qu'à n'en point avoir. Mais il est difficile de ne pas dépendre de son naturel quand on veut bien qu'il soit le maître. Et l'on se retrouve sans peine quand on en a beaucoup à se quitter. Il est donc important de vous nourrir alors d'un pain plus solide que ne sont des pensées qui n'ont point de but, et dont les plus innocentes sont celles qui ne sont qu'inutiles. Et je croirais que vous ne pourriez mieux employer un temps si tranquille qu'à vous rendre compte à vous-même d'une vie déjà fort longue, et dont il ne vous reste rien qu'une réputation dont vous comprenez mieux que personne la vanité. Jusqu'ici, les nuages dont vous avez essayé de couvrir la religion vous ont caché à vous-même. Comme c'est par rapport à elle qu'on doit s'examiner et se connaître, en affectant de l'ignorer, vous n'avez ignoré que vous. Il est temps de laisser chaque chose à sa place et de vous mettre à la vôtre. La vérité vous jugera, et vous n'êtes au monde que pour la suivre et non pour la juger. En vain l'on se défend, en vain on dissimule. Le voile se déchire à mesure que la vie et ses cupidités s'évanouissent, et l'on est convaincu qu'il en faudrait mener une toute nouvelle quand il n'est plus permis de vivre. Il faut donc commencer par le désir sincère de se voir soi-même comme on est vu par son juge. Cette vue est accablante même pour les personnes les plus déclarées contre le déguisement. Elle nous ôte toutes nos vertus et même toutes nos bonnes qualités, et l'estime que tout cela nous avait acquise. On sent qu'on a vécu jusque-là dans l'illusion et le mensonge, qu'on s'est nourri de viandes en peinture, qu'on a pris de la vertu que l'ajustement et la parure, et qu'on en a négligé le fond, parce que ce fond est de rapporter tout à Dieu et au salut, et de se mépriser soi-même, en tous sens, non par une vanité plus sage et par un orgueil plus éclairé et de meilleur goût, mais par le sentiment de son injustice et de sa misère. » Fin des guillemets. Le reste de la lettre est également admirable, et de ce ton approprié et pressant. Ainsi, vous qui avez rêvé, cessez vos rêves. Vous qui vous estimiez vrai entre toutes, et que le monde flattait d'être tel, vous ne l'étiez pas. Vous ne l'étiez qu'à demi et qu'à faux. Votre sagesse sans Dieu était pur bon goût. Je lis plus loin une phrase sur ces années dont on ne s'est point encore sincèrement repenti, parce qu'on est assez injuste pour excuser sa faiblesse et pour aimer ce qui en a été cause. Note. Duguay, jeune, s'était essayé au roman tendre et avait fort aimé l'Astrée. C'était en tout un directeur comme il le fallait à l'auteur de La Princesse de Clèves. Reprise. Un an avant de mourir, Madame de La Fayette écrivait à Madame de Sévigné un petit billet qui exprime son mal, sans repos, nuit et jour, sa résignation à Dieu, et qui finit par ces mots. « Croyez-vous, ma très chère, que vous êtes la personne du monde que j'ai le plus véritablement aimée ?» L'autre affection qu'elle ne nommait plus, qu'elle ne comptait plus, était-elle donc enfin ensevelie, consumée en sacrifice? Tout concorde jusqu'au bout et tout s'achève. Madame de Sévigné écrit à Madame de Guitaut le 3 juin 1693, 2 ou 3 jours après le jour funeste, et déplore la mort de cette amie de 40 ans. Guillemets. Ses infirmités depuis 2 ans était devenue extrême. Je la défendais toujours, car on disait qu'elle était folle de ne vouloir point sortir. Elle avait une tristesse mortelle. Quelle folie encore ! N'est-elle pas la plus heureuse femme du monde ? Mais je disais à ces personnes si précipitées dans leur jugement, « Madame de La Fayette n'est pas folle !» Et je m'en tenais là. « Hélas, madame, la pauvre femme n'est présentement que trop justifiée. » elle avait deux polypes dans le cœur, et la pointe du cœur flétrie. N'était-ce pas assez pour avoir ces désolations dont elle se plaignait? Elle a eu raison pendant sa vie, et elle a eu raison après sa mort. Et jamais elle n'a été sans cette divine raison, qui était sa qualité principale. Elle n'a eu aucune connaissance pendant les 4 jours qu'elle a été malade. Pour notre consolation, Dieu lui a fait une grâce toute particulière et qui marque une vraie prédestination. C'est qu'elle se confessa le jour de la petite fête Dieu, avec une exactitude et un sentiment qui ne pouvaient venir que de lui, et reçut notre Seigneur de la même manière. Ainsi, ma chère madame, nous regardons cette communion qu'elle avait accoutumé de faire à la Pentecôte comme une miséricorde de Dieu qui nous voulait consoler de ce qu'elle n'a pas été en état de recevoir le viatique. Fin des guillemets. Ainsi mourut et vécut, dans un mélange de douceur triste et de vive souffrance, de sagesse selon le monde et de repentir devant Dieu, celle dont une idéale production nous enchante. Que peut-on ajouter de plus comme matière de réflexion et d'enseignement? La lettre à Madame de Sablé, la princesse de Clèves et la lettre de Duguay, n'est-ce pas toute une vie? 1er septembre 1836.